le 6-9 de l'été sur France Inter.
Le premier invité du 6-9 de l'été, bonjour Alexis Corbière.
Bonjour, ça va?
Ça va et vous-même?
Je réponds à Dominique Seux, c'est une belle administration qui n'a pas les moyens surtout de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale qui coûte chaque année 100 milliards d'euros. D'accord? Donc c'est surtout ça le problème, c'est pas tellement ce que vous évoquez. Ce qu'il faudrait, les services fiscaux qui puissent mieux travailler pour faire en sorte qu'on perde pas autant d'argent chaque année.
Je voilà. Termine de vous présenter, vous êtes député.
Je réponds pas.
Hein. Excusez-moi.
Vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Cet après-midi, les députés de la France Insoumise boycottent le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles. En revanche, vous ne boycottez pas les studios et les micros, ça veut dire qu'un parlementaire a sa place dans un studio et pas dans l'hémicycle?
C'est pas contradictoire. On profite de cette journée, je vous remercie de m'inviter d'ailleurs, pour nous faire entendre, parce que précisément cet exercice que vous avez présenté tout à l'heure et qu'Yael Gauz a présenté est une modification de la Ve République qui tend de plus en plus vers son caractère monarchique. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est pas tellement que je ne refuse d'écouter Emmanuel Macron, mais je considère que s'il vient parler devant la représentation nationale, il doit écouter la représentation nationale. C'est, bien sûr, c'est un moment symbolique. Si le président de la République vient parler devant les représentants du peuple français, je n'accepte pas l'idée qu'une fois qu'il a terminé son discours, il range ses affaires, il s'en va. D'un point de vue symbolique, ça sous-entend qu'il est donc le monarque, c'est un héritage du discours du roi, ou je ne sais trop quelle tradition qui n'est pas républicaine. S'il vient, il doit souffrir du fait qu'il écoute son opposition et même l'ensemble des groupes parlementaires. S'il ne veut pas le faire, de quoi s'agit-il? D'un exercice de communication qui coûte près de 300 000 euros par mois,
par session, par an.
Donc au bout d'un moment, 1,2 milliard ou 1,5 milliard sur la totalité d'un... Décidément, je suis fâché avec
millions,
les chiffres.
Millions.
Je suis fâché avec les chiffres ce matin. 1,5
million. 1,5 million sur le quinquennat.
C'est un exercice de communication auquel je dis invitez-le sur France Inter, ouais, ça fera de l'audience. S'il veut pas nous écouter, pour quelle raison? Alors, quand il parle avec Monsieur Bourdin, Monsieur Plenel, là, il y a un échange. Et quand il s'agit de groupes parlementaires, il n'y a pas d'échange.
Mais vous pouvez échanger avec l'exécutif toutes les semaines.
Eh ben voilà.
Le mardi, le mercredi.
Eh ben, vous avez tout dit. La Ve République, le Premier ministre, lui, s'exprime devant l'Assemblée nationale. On lui répond, il écoute, c'est fait pour ça. Alors, à quoi sert l'utilisation de cet article 18 modifié par Sarkozy, qui devait être utilisé lorsqu'il y avait des choses exceptionnelles, à quoi ça sert de le banaliser? Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est la seule possibilité que j'ai dans ces conditions, vu que le président de la République ne m'écoutera pas, c'est de dire je ne suis pas d'accord, je ne me prêterai pas à l'exercice, je n'y vais pas, et je réponds à France Inter quand il m'invite pour faire entendre ce point de vue. Il faut d'autres institutions, une 6e République, un régime plus parlementaire, des droits nouveaux pour les citoyens, et pas une concentration accrue vers les pouvoirs du président de la République.
Justement, on va pas vers la 6e République, mais on va vers une réforme constitutionnelle qui sera débattue à partir de demain à l'Assemblée. Introduction d'une dose de proportionnelle, suppression de la Cour de justice de la République qui jugeait jusqu'ici les ministres, réforme du Conseil environnemental, social et économique. Ça fait partie des points de votre programme pendant la présidentielle.
Mais pourquoi vous rajoutez pas aussi affaiblissement des droits de l'opposition, moins de droits d'amendement?
Alors, moins de droits d'amendement, réduction du nombre de parlementaires.
Voilà.
Tout est acheté dans cette réforme?
Non, mais elle ne va... Premièrement, quand on touche aux institutions qui ont notre règle commune, qu'on soit d'accord avec les insoumis, pas les insoumis, qui vous voulez, c'est au peuple d'en décider. D'accord? Donc nous sommes pour une assemblée constituante, si nous étions en responsabilité, c'est-à-dire que...
Mais là, vous êtes député, donc vous devez voter ou pas une réforme parlementaire, constitutionnelle qui sera sur votre pupitre
pour quelle
demain.
Raison. Je suis un peu bas de plafond, mais je suis en train de vous expliquer pour quelle raison je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Ça n'est pas au député...
Mais elle est là, la méthode, c'est le réel.
C'est vraiment pour laquelle je ne suis pas d'accord. Donc si je peux terminer mon explication, je pense que quand on touche aux institutions, ce n'est pas aux députés de décider eux-mêmes des règles des députés. D'accord ? C'est au peuple de décider de comment ça va fonctionner. Donc ça s'appellerait une assemblée constituante. C'est très français. Hein. C'est d'ailleurs à la cœur même, aujourd'hui on est le 9 juillet, et le 9 juillet 1789, il y a eu une assemblée constituante dans ce pays. C'est l'acte premier, si je puis dire, de la Révolution française. Donc il faut décider nos institutions. C'est au peuple d'en discuter. Pas, une fois de plus, au régime lui-même de modifier les choses pour, notamment, je pense, donner plus de pouvoir au président de la République et à affaiblir le Parlement, notamment avec le droit d'amendement de plus en plus réduit pour les parlementaires. C'est quand même un problème. En réduisant le nombre de parlementaires, pour quelle raison la démocratie va mieux fonctionner s'il y a 400 députés que 577? Je n'en sais rien. Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas même 5 ou 6 députés finalement? Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt que de chiffres, discutons de quels sont. Comment ça fonctionne? Quelle est la relation entre le citoyen et son député? Pourquoi ne pas mettre des droits nouveaux? C'est notre proposition en 6e République. Le droit de révoquer les élus en cours de mandat. La prise en compte du vote blanc. Par exemple, ce week-end, il y a eu une élection dans l'Essonne qui est caractérisée par un taux d'abstention phénoménal. Moi qui
quasiment.
Suis député de Montreuil et Bagnolet, et plutôt bien élu, 58% au second tour, pourtant c'est que 20% des électeurs inscrits qui ont voté pour moi. 80% des gens n'ont pas voté pour moi. Et je m'applique à moi-même un raisonnement que je fais à tous les députés qui sont généralement très très mal élus par rapport au nombre d'électeurs inscrits. inscrits. Ça veut dire que des gens qui parlent au nom du peuple français, généralement, ne représentent que 10 à 15% des électeurs inscrits. C'est tout de même un problème. Soit on ne voit pas ça, et on dit Corbière exagère, et finalement, de se détache de plus en plus une vie politique institutionnelle totalement éloignée du peuple, soit on cherche à de nouvelles règles qui permettent à ce que les citoyens puissent contrôler les élus. Et la colère, elle vient de là, du sentiment qu'on vote pour des gens, et quel que soit celui pour lequel on a voté, après, on a la même politique économique et sociale, et on ne peut plus contrôler, et l'électeur ne veut plus être un électeur en culotte courte. Surtout à l'heure de la communication et des médias.
Cela dit, on peut contrôler au bout de 5 ans de mandat, et là, effectivement, on réélit ou on révoque.
Oui, mais précisément, au bout de 5 ans de mandat, quand, malgré tout, je ne crois pas à une élection qui consiste à dire « rendez-vous dans 5 ans ». Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen, notamment en raison de cette société de communication dans laquelle nous allons, il est de plus en plus présent. Et on peut très bien imaginer que si au bout de, à partir de la mi-mandat, c'est ce qu'on propose, que les électeurs puissent dire « écoutez, un certain nombre d'électeurs le demandant, on peut refaire l'élection ». Ça créerait un cercle vertueux qui ferait en sorte que, notamment, il y ait une relation plus forte. Et puis, aussi, la prise en compte du vote blanc que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est acceptable que des élus ne soient pas représentatifs ? Je ne crois pas.
Une ultime question, Alexis Corbière. Geoffroy Roux de Bézieux sera à votre place dans une vingtaine de minutes. Quelle question aimeriez-vous lui poser au patron des patrons ?
Comment, après avoir, on a parlé de pognon de dingue, est-ce qu'il légitime ces dingues de pognon, notamment, qui constituent son équipe, quoi? Tous ces gens, ces patrons du CAC 40, qui captent de plus en plus des richesses. C'est ce que nous a montré le rapport de l'Oxfam sur les richesses produites. La part qui part en dividende est de plus en plus importante. Oxfam disait 67% qui part en dividende sur les richesses produites. Est-ce qu'ils trouvent ça normal aujourd'hui? Moi, j'ai fait la différence entre le petit patronat, ce que je connais, et monsieur Roux de Bézieux, qui remonte un grand patronat que je ne connais pas, qui est très minoritaire dans ce pays et pas du tout représentatif du patronat.
Merci, voilà, Alexis Corbière, député
insoumis. Et une bise à Charlie, j'ai une pensée pour elle, parce que France-Belgique, ça doit la mettre en situation un peu difficile.
Mais nous sommes tous déchirés.
Mais je l'écouterai ce soir.
Demain soir.
C'est demain soir le duel d'humoriste.
Oui, c'est demain soir, en même temps que le match, vous aurez le combo.
J'ai fait un petit clin d'œil et j'espère qu'elle ne m'en veut pas.
Merci Alexis Corbière.